Radio Kapi. Oh, Kapi.
Une nouvelle situation de la RDC soumise hier à la Cour pénale internationale par le gouvernement congolais. Rose Mutombo, ministre de la Justice, invite la CPI à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre la coalition RDF-M23 dans l'est de la RDC. Tête à tête hier entre le président de la CENI et le premier ministre, au menu de la rencontre, informer le chef du gouvernement congolais du prochain dépôt au Parlement de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges ainsi que la suite du processus électoral. Ingénieur Eslam Rafat est l'invité de ce journal. Il parlera de la pose du géotextile sur le tronçon Bujimai-Kananga. C'est pour solidifier la chaussée en réhabilitation. Bonjour à tous. Le gouvernement congolais a soumis une nouvelle situation de la RDC à la Cour pénale internationale hier mardi 23 mai. Et c'est la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, qui a déposé une note de renvoi d'une situation au bureau du procureur de la CPI à La Haye, l'invitant à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre la coalition RDF M23 dans l'est de la RDC. Jeff Ngoy.
Cette note vise des poursuites et la répression de RDF M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou de complice dans les actes et comportements illicites, caractéristiques de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme enregistrées entre 2022 et 2023. Selon la ministre, le gouvernement congolais reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par des actes faisant objet du présent renvoi. Les exactions commises sur des civils et les pillages systématiques des ressources naturelles par le RDF et M23. Déjà en décembre 2022, lors de sa participation à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le gouvernement avait réaffirmé sa coopération avec la Cour et avait invité son procureur Karim Khan à Kinshasa. Sauf imprévu, cette visite est prévue du 28 au 31 mai prochain.
Le calme est revenu à Luambo, localité du territoire de Kambove, province du Haut-Katanga, après une journée agitée lundi dernier. Deux personnes sont mortes et plusieurs sont grièvement blessées. C'est à la suite de la révolte de certains habitants qui soupçonnaient un tradit praticien d'être l'auteur des cas d'enlèvement des enfants. Une situation dénoncée par l'administrateur du territoire de Kambove qui appelle tout le monde à la retenue et à ne pas se faire justice. D'autres détails avec Jean Gandou.
D'après l'administrateur du territoire de Kambove, tout serait parti d'une rumeur qui s'est répandue dans la localité, faisant état de la présence d'un kidnappeur du nom de Karashika. Ce dernier était accusé de travailler en connivence avec un directeur d'école qui faciliterait l'enlèvement des enfants. Pris à partie, il a été récupéré par la police pour sa protection. Les manifestants l'ont ravi de main de la police et l'ont lynché jusqu'à ce que mort s'en suive. Sa maison a été saccagée et l'école vandalisée, ses enfants tabassés et sa femme grièvement blessée. Une autre personne est morte percutée par un véhicule au moment où tout le monde courait dans tous les sens. Pendant ce temps, d'autres manifestants voulaient en finir avec son enfant âgé de 4 ans. Un policier est intervenu pour les sauver. Ce dernier a été aussi grièvement blessé et s'en est sorti avec une jambe fracturée. Au regard de la gravité des blessures, la femme de la victime, ses enfants ainsi que le policier ont été transférés à Lubumbashi pour des soins appropriés par la chefferie de Bayeke, rapporte l'administrateur du territoire de Kambove. Le bureau de la police était aussi vandalisé et tous les détenus ont pris les larges. La police a procédé au tir des sommation pour calmer la population en colère, mais sans succès. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le commandant de la 31e région militaire vole au secours des milliers de déplacés cantonnés au centre d'instruction Lukusa dans la commune de Lubunga. En ces lieux, plus de 2000 personnes y ont trouvé refuge, fuyant les affrontements entre les communautés Mbole et Lingola. Les détails avec Jacques Mukonkole.
Accompagné du commandant du centre d'instruction Lukusa et quelques officiers de son état-major, le commandant de la 31e région militaire a rendu visite à 5 milliers de déplacés. Ceux-ci ont trouvé refuge au centre d'instruction de Lukusa depuis environ 2 semaines. Et c'est pour se mettre à l'abri des atrocités des belligérants Bolé et Lingola qui ne sont plus en odeur de sainteté depuis mars dernier. Le général-major Timothée Mujinga n'y est pas allé mais bredouille. Il leur a remis notamment des sacs de riz, de sel, de sucre et des cartons de savon. des biens de première nécessité afin de soulager un tant soit peu leur souffrance. Une occasion également pour lui de les consoler et de les encourager pour ne pas tomber dans le défaitisme. Par ailleurs, au cours de cette visite, le général-major Timothée Mujinga a annoncé à ses hôtes le début de la réhabilitation de leur maison à partir de ce mercredi par les services de génie militaire et de la police. Ceci afin de leur permettre de regagner leur domicile. Ils sont venus de deux axes, à savoir route Opala et route Ubundu. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Après la validation du fichier électoral par les experts indépendants nationaux et internationaux, le président de la CENI a informé hier le premier ministre du prochain dépôt au Parlement de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges et la suite du processus. Au cours de ce tête-à-tête, le président de la CENI a décliné les différentes étapes à venir de ce processus électoral. Billy Yvan Lutumba.
Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après le dépôt lundi dans la soirée auprès du ministre de l'Intérieur et Sécurité de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Parlant du chronogramme des autres opérations électorales entre les deux personnalités, il est à noter que juste après cette étape de la validation du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter le projet de loi sur la répartition des sièges au Parlement pour adoption. Suivant ensuite la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Denis Kadima a par ailleurs annoncé le début de la réception et du traitement des candidatures aux dites législatives dans les semaines qui suivent. Pour sa part, le Premier ministre a rassuré de l'engagement du gouvernement à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral devant déboucher au 20 décembre 2023 à la tenue de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales.
Dans le même temps, dans la province du Haut-Lomami, une certaine confusion continue à régner à l'Assemblée provinciale. Difficile de savoir quel est le bureau qui y est opérationnel. Pour certains députés, l'ancien bureau a été déchu et c'est le bureau d'âge qui est déjà installé et qui doit fonctionner. Les membres de l'ancien bureau, eux, se disent non concernés car l'affaire est pendante devant les instances judiciaires. Thierry Caleb Mwambalumbala, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, est au micro de Jean Gandou.
Il y a la crise au niveau de l'Assemblée provinciale, occasionnée par le fait qu'il y a un bicéphalisme. Il y a deux bureaux, le bureau définitif et le bureau d'âge. Alors, nous, jusque-là, nous ne reconnaissons pas que nous sommes destitués, parce que nous n'avons jusque-là aucun acte mis à notre disposition pour nous notifier de notre déchéance. Donc, nous sommes encore membres du bureau à part entière. La procédure prévoit que chacun soit visé par une motion. Jusque-là, cette motion n'est jamais venue. Comment est-ce qu'on peut parler déjà de la remise et reprise? Et même s'il faut parler de la remise et reprise, on va la faire avec qui? C'est avec un bureau définitif, c'est pas avec les bureaux d'âge. Tout ça, ça nous met un peu perplexe, on ne sait pas de quoi il s'agit. Nous n'avons jamais fui nos bureaux, nous sommes là et nous y serons. Ils viendront nous expliquer il s'agit de quelle procédure, nous voulons faire la remise et reprise, c'est avec qui, ça va se faire comment, c'est sur base de quel acte.
Et par rapport à l'arrêt de la cour d'appel, qu'est-ce que vous en dites?
Il n'y a pas encore d'arrêt de la cour d'appel, il s'agit bien d'une ordonnance prise par le juge unique et qui a constaté qu'il était dans l'impossibilité de suspendre l'acte du DA parce qu'il faisait défaut au dossier.
Au Nord Kivu, l'école primaire Mbuto, dans le groupement Banande-Kainama, territoire de Beni, a perdu sa toiture depuis dimanche dernier à la suite d'une pluie torrentielle accompagnée de vents violents. Depuis lors, les élèves étudient sous les arbres à la merci de toutes les intempéries. Bienfait Baraka, chef de Sekope, antenne d'Oicha Iringeti-Kainama, qui est l'autorité scolaire la plus proche dans la zone, lance un appel au gouvernement et à ses partenaires en vue de voler au secours de ses élèves et de sauver leur année scolaire qui touche à sa fin. Il est au téléphone. Téléphone de Marc Marofimbo.
La pluie qui s'est bâtie dans le groupement Banane Kainama, territoire de Beni, a laissé derrière elle des dégâts matériels. Nous avons enregistré le bâtiment, les deux salles de classe de l'EP Mbuto, une école non conventionnée qui se trouve dans le groupement, a été emportée par cette pluie. Donc nous demandons une assistance, surtout pour ce bâtiment emporté par la pluie qui s'est bâti dimanche dans les après-midi aux environs des 15h.
Aucune solution jusqu'à présent. Il n'y a rien jusqu'à présent. Même j'ai appelé le sous-proviseur et il m'a dit que non, il va faire aussi rapport. Ils sont annexés dans une salle. C'est vraiment compliqué.
Dans la province de Maniema, présentation hier aux autorités de la province des activités de la deuxième phase du projet de réponse aux crises causées par des inondations dans la ville de Kindu. Projet piloté par l'ONG dénommé Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale. Il vise à améliorer les conditions de vie des ménages sinistrés des dernières inondations. Florence Kizalunga.
Cette deuxième phase du projet de Midefeops ASBL consiste à apporter une réponse aux crises des inondations dans la ville de Kindu. Certains ménages seront assistés avec des kits agricoles et d'autres pourront recevoir des cash. Anwarit Kawuo, membre de cette ASBL.
Dans la deuxième phase, on va appuyer 2166 ménages avec des kits agricoles. Donc ça va leur permettre de relancer les activités agricoles. Et là, on va donner la semence maraîchère, on va donner des outils aratoires et des produits phytosanitaires. Mais aussi 800 et du ménage pourront recevoir des interventions en cash pour leur permettre de reconstituer le kit de ménage essentiel qu'ils ont perdu pendant les inondations.
Le chef de division des actions humanitaires et solidarité nationale souhaite que cette assistance arrive aux vrais bénéficiaires. Professeur Hassani Wakenge Boni.
Ce que je souhaite, c'est quoi? Ils sont venus avec une subvention et que cette subvention-là arrive aux bénéficiaires. Et tout ce qu'ils nous ont proposé ici comme distribution de semences. Et je me suis dit, c'est déjà un ouf de soulagement pour la province.
À part cette assistance, cette ASBL va également procéder à la sensibilisation communautaire sur la protection et la prévention de violences basées sur le genre et les risques liés aux inondations fluviales. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, le Conseil économique et social a organisé lundi dernier à son siège un atelier de réflexion au cours duquel le projet de mobilité climatique de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique a été présenté aux différents acteurs et parties prenantes du secteur de l'environnement. Ouverte par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, cette activité avait pour but de mettre en place un cadre d'échange entre différents acteurs nationaux et internationaux afin d'étudier les dispositions pratiques à mettre en place pour contrecarrer les effets néfastes des changements climatiques, notamment la mobilité climatique. On écoute Jean-Pierre Kiwakana dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Les changements climatiques affectent les tendances pluviométriques et les températures, ce qui exacerbe la vulnérabilité des populations rurales. Les désastres consécutifs à des phénomènes extrêmes comme la sécheresse récurrente, les pluies irrégulières, les vents violents, les perturbations des calendriers agricoles, les inondations, des érosions et glissements des terrains, la persistance des vagues de chaleur, des pluies violentes et la dégradation des terres menacent en permanence les populations vulnérables et leurs moyens de subsistance. Sans compter les menaces qui pèsent sur toutes les formes, les menaces qui pèsent sur toutes les formes de vie, depuis les pluies microscopiques jusqu'aux pluies géantes, pèsent sur la nature dans toutes ses formes, que pourtant nous avons le temps de voir, de protéger. Bien que la COP 27 soit derrière nous, les décisions prises à Sharm el-Sheikh exigent tous les piliers d'efforts supplémentaires pour faire face à la crise climatique.
Actualité internationale.
Plus d'un million de personnes ont été déplacées par des conflits armés, les inondations ou la sécheresse depuis le début de l'année en Somalie, aggravant les risques de famine, ont annoncé ce mercredi l'ONU et le Norwegian Refugee Council NRC. Les deux organisations parlent d'un taux de déplacement record dans ce pays de la Corne de l'Afrique. À une sécheresse historique causée par 5 saisons des pluies insuffisantes depuis 2020, sont venues s'ajouter ces dernières semaines des violentes inondations qui ont fait au moins 22 morts. Le pays connaît par ailleurs un regain de violence en raison d'une offensive militaire menée depuis septembre par le gouvernement contre les islamistes radicaux Shebab et des affrontements armés dans la région séparatiste du Somaliland qui ont tué au moins 210 civils en février. Ainsi, dans ce pays d'environ 17 millions d'habitants, près de 6,7 millions de personnes peinent à subvenir à leurs besoins alimentaires, selon l'ONU et le NRC, et plus d'un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition sévère.
L'invité.
Au Kassai Oriental, l'entreprise Samcret, chargée de construire et de moderniser la route nationale numéro 1, axe Mbujimai-Kananga, pose depuis la semaine dernière du géotextile pour rendre la chaussée solide. L'ingénieur conducteur des travaux explique les différents travaux qui seront effectués sur cette route. Ingénieur Eslam Rafat s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Eslam Rafat. Nous venons de constater la pose du géotextile sur la RN1, axe Mbujimayi-Kananga. Ça ressemble à une nouvelle technologie. Quelle est donc son importance?
La première chose, c'est une protection d'une couche de la route. Parce que la couche là, c'est pas une couche naturelle, c'est couche mélangée et remplacée avec les engins. C'est de un pour protéger l'eau qui sort du souterrain. Ça n'absorbe pas de l'eau, ça va protéger ou bien séparer les couches et tout ce qui est au-dessus. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça augmente même la durabilité de le souterrain. La durabilité du géotextile, là, c'est pour 50 ans.
Après avoir posé ce géotextile, quelle est la prochaine étape?
Mais on couvre avec le sable d'abord, et après ça, on met la terre normale. Jusqu'à certains niveaux, on va commencer à mettre le gravier. Il y a deux couches. Il y a le sous-base, c'est le gravier de 35 cm. Et après ça, il y a une autre couche qui est avec 15 cm d'épaisseur, avant l'asphalte. Donc, la première étape, c'est le déblai, comme vous avez vu, l'excavation. Nous, on était au niveau à haut, là. On creuse, selon les conceptions de travaux que l'émission de contrôle a fait. On coupe d'abord. Et quand on arrive au niveau de ce terrain-là, on étale, on compacte. J'ai textile, le sable pour 5 cm. Une couche de gravier de 35 cm, après une deuxième couche de gravier, mais la granulométrie de gravier c'est moins, de 15 cm, et après ça c'est les deux couches d'asphalte. C'est ça les étapes. Mais la première étape, c'est pour ça les gens ne sentent pas qu'il y a le travail, parce que la première étape c'est le déblai, l'excavation. Comme vous allez voir là-bas, déjà l'engin commence à décaper la terre pour enlever, mettre dans les décharges les mauvais matériaux, les matériaux organiques, les terres végétales, tout ça. Et après ça, la deuxième étape, comme vous avez vu ici, vous allez trouver que c'est retaillé et c'est compacté. On a fait l'arrosage de l'eau pour que ça soit un peu humide, on fait le compactage et après ça, comme je vous dis, on met les couches différentes de la route. De quoi on met le géotextile, c'est systématique après. C'est couche par couche comme ça jusqu'on termine jusqu'à la couche de gravier.
Ça fait plus de 5 mois depuis que vous avez commencé ces travaux. Ça risque de tirer en longueur. Êtes-vous confronté à certaines difficultés et lesquelles?
Ce qui a nous tardé un peu, c'est que le transport de tous les engins à partir de là où ça arrive, par exemple, Matadi, ou on est dit tout, le Mombashi, n'importe où. Ça, c'est la responsabilité de notre client. Ils ont commencé à faire beaucoup d'efforts. Ils ont en train d'amener le reste des engins, parce qu'on a beaucoup des engins qui sont dans le Mombashi. Ils ont 11 camions là-bas, de voitures. Mais à Matadi, il y a aussi le bitume, il y a l'usine d'asphalte, il y a un bulldozer. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours dans le port. Et on attend que ça arrive pour augmenter la production de travaux et tout ça. Comme vous voyez, tous les engins sont en fonction. Tout le monde sont là. On travaille. On espère que tout le monde peut nous aider aussi parce que les gens parlent seulement. Les gens ne viennent pas comme vous sur le terrain pour voir. Mais c'est mieux que vous êtes venus aujourd'hui pour voir sur le terrain ce qui se passe.
Mais par rapport au délai, hein, donc une partie pour ces travaux, je pense que nous avons déjà dépassé le délai.
Le délai? Oui. Non, le délai de projet, c'est 3 ans. Oui, à partir du jour de la signature du contrat, c'est 3 ans. Jusqu'à Kananga, c'est 3 ans.
Pourquoi ces travaux n'ont-ils pas commencé au niveau du rond-point Petrombo à Kalalawankata?
Oui, ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez ici. Ici, c'est pas une zone urbaine. C'est une zone, on appelle ça rurale. OK. Là-bas, il y a les boutiques. Il y a les maisons, il y a les réseaux différents, par exemple, le régie des eaux. Si même vous allez là-bas, là où les dallos, là où les ouvrages, vous allez trouver qu'il y a 2 tuyauteries en fer. Ça, ça passe dans l'emprise de la route. Si moi maintenant, ça c'est un seul exemplaire, on a le régie des eaux avec le tuyauterie là, on a les fibres optiques pour des autres entreprises, SCPT je pense, et on a aussi le lambadaire de la société Sénel, tout ça, parce que la première étape dans le travaux est le levé topographique pour avoir les obstacles. Il y avait les obstacles que j'ai mentionné là, aussi il y avait l'obstacle des herbes qui bloquent l'emprise de la route. On a envoyé pour tout le monde, même notre client, la mission de contrôle, le gouvernement, tout le monde, un dessin, un schéma, qu'il y a toutes les choses qui vont nous bloquer. Ça, c'était l'année passée. Hein? Toutes les choses qui nous font l'obstacle pour nous. Là. Et toutes les choses sont concentrées à partir de PK0, là où le rond-point, là, jusqu'à PK4. Ça, c'est la première phase. On a commencé même le travail, les différentes parties, on dit quoi? On dit travailler, et pendant votre travail, les gens vont venir pour commencer à enlever les obstacles pour qu'ils vous continuent. Mais ça, on n'est pas coopéré. Si on travaille, si on casse par exemple, quand pendant le travail, un tuyauterie qui a l'eau pour les gens qui boivent et tout ça, ça sera un problème pour nous, pour l'entreprise qui a le tuyauterie là, et pour tout le monde. C'est pour ça, il y a les étapes systématiques de travaux. Il faut enlever ça. Et ça, il y avait beaucoup de discussions par rapport à ça.
Merci beaucoup.
Merci.